Aligre FM 93.1 Harmonie du soir. Bonsoir, il est 19h sur l'antenne d'Aligre FM 93.1, c'est l'heure d'Harmonie du soir, comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer et de vous dire un maximum de choses sur cette révolution majeure de la musique du XXe siècle, que l'on appelle la musique atonale, ou encore musique sérielle et dodécaphonique. Nous allons vous expliquer de quoi il s'agit. À l'orée du XXe siècle, va s'amorcer une véritable révolution dans le domaine du langage musical. Ce tournant décisif, dont la musique d'aujourd'hui conserve en large part la trace très vive, va permettre de qualifier désormais la musique d'atonale, de sérielle ou encore de dodécaphonique. Trois termes qui regroupent des pratiques et des concepts sensiblement différents et que nous allons tenter de définir. Cette révolution n'est pas absolument spontanée et imprévisible. Elle est le fruit d'une évolution du langage depuis le XVIIe siècle, évolution qui se caractérise par un affaiblissement progressif, une dissolution inévitable de ce que l'on appelle les fonctions tonales. Expliquons-nous. La musique médiévale, puis celle de la Renaissance, était fondée sur ce que l'on appelait les modes, c'est-à-dire une succession de notes dans un ordre précis et hiérarchisé, et elle était aussi essentiellement polyphonique. La musique de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe va être de plus en plus monodique, c'est-à-dire à une voix et non plus en superposant plusieurs voix, et aussi harmonique. On remplace le contrepoint par des accords. Le contrepoint, ce sont des lignes mélodiques qui se superposent et se rencontrent en différents points pour consonner ou parfois dissonner. Nous en avons tous fait l'expérience dans notre enfance en chantant une musique en canon, par exemple. Donc, l'espace musical, d'horizontal, va devenir vertical, c'est-à-dire qu'il privilégie une superposition de notes, un accord, qui vient soutenir une ligne mélodique qui s'exprime en solo. Évidemment, nous résumons là schématiquement les choses, elles se passent progressivement et se manifestent aussi d'une façon plus diverse. Dans ce contexte, les anciens modes utilisés dans les polyphonies sont remplacés par deux modes, le majeur et le mineur, qui vont structurer à peu près l'ensemble de la musique occidentale. Nous entrons donc dans ce que l'on appelle le système tonal, dont le symbole est l'accord parfait. Si l'on part d'une note, le Do par exemple, et que nous jouons simultanément un Mi et un Sol. Nous avons un accord parfait qui sonne. Nous nous situons alors dans une tonalité, le Do majeur, constitué de 8 notes. Le Do est la note qui désigne cette tonalité. Elle en est la note fondamentale, celle qui nous attire. C'est normal, puisque si on analyse le spectre sonore émis par cette note, nous pouvons entendre ce que l'on appelle des harmoniques, c'est-à-dire comme des notes que l'on n'entend pas directement à l'oreille, mais qui résonnent dans le son. C'est un phénomène purement acoustique. Et ces harmoniques sont en premier lieu l'octave, c'est-à-dire le Do plus aigu, donc toujours la fondamentale, mais dans un registre plus aigu. Aussi le Sol, c'est-à-dire la quinte. Et aussi le Mi, la tierce. etc. C'est pour cela que l'on a cette sensation de consonance et que le do nous attire. Si l'on fait se succéder un accord construit sur la quinte, c'est-à-dire le sol, avec un accord parfait de do majeur, nous avons une sensation d'attraction, de conclusion, comme si la phrase se fermait en toute stabilité. C'est ce que l'on appelle la cadence parfaite, une manière de conclure la musique par la consonance et le retour sur la note fondamentale, à savoir le do, si nous sommes en do majeur. Nous avons là illustré très simplement ce que l'on appelle une fonction tonale, celle de la quinte, ou autrement appelée dominante, et celle de la fondamentale, autrement appelée tonique. Il existe une grande variété de successions d'accords qui vont chacune offrir une sensation différente de suspens, de relance ou de conclusion du discours. À côté de ce principe cadentiel, la musique tonale offre un principe de tension-détente, c'est-à-dire, pour le dire encore schématiquement, que le retour sur la note fondamentale après un épisode dissonant donne une sensation de détente, de résolution et d'apaisement. Pour pouvoir faire évoluer le discours musical, le doter d'une dimension dramatique, théâtrale, qui se manifeste dans cette sensation de tension, il faut pouvoir souplement passer d'une tonalité à une autre, afin, en dernier lieu, de résoudre le tout en revenant à la tonalité principale. Pour ce faire, à partir du XVIIIe siècle, l'on va diviser l'octave en 12 sons égaux, c'est-à-dire en 12 demi-tons. C'est ce que l'on entend si l'on fait se succéder toutes les notes du piano, celles sur les touches noires et celles sur les touches blanches. Il y a des passages d'une tonalité à une autre qui semblent naturels et évidents, celle de la dominante par exemple, mais il y a aussi des tonalités très éloignées de la note fondamentale qui vont donner une sensation de tension exacerbée. La musique tonale va de plus en plus jouer avec ce paramètre, au point d'utiliser ce que l'on appelle le chromatisme, c'est-à-dire travailler à partir de ces demi-tons. Le champion en la matière sera Richard Wagner. Il va sans cesse retarder la résolution pour faire en sorte que le discours se relance perpétuellement. Ceci à des fins dramatiques et théâtrales. Rappelons qu'il est exclusivement un compositeur d'opéra. Le symbole de ce phénomène et de cette évolution se manifeste dans le fameux accord de Tristan, dont il est impossible de déterminer la tonalité d'appartenance, car il n'est pas résolu. Il ouvre à plusieurs résolutions possibles qui ne sont pas opérées et qui donnent cette sensation de suspens. Il faudra attendre la fin de l'opéra pour sentir cette résolution. Nous comprenons que dans ce contexte de fin du XIXe siècle, les fonctions tonales s'affaiblissent, sont en train de se dissoudre. Elles étaient basées sur une hiérarchie. Les compositeurs vont progressivement rompre avec cette hiérarchie afin d'explorer un océan de tensions et de dissonances dont ils retardent la résolution pour plus de dramatisme. Ce phénomène d'érosion progressive va trouver dans la personne d'Arnold Schoenberg celui qui ne demandait qu'à opérer la révolution définitive, rompre avec la notion de tonalité, émanciper la dissonance et ainsi abolir toute hiérarchie entre les hauteurs de son, ce que certains appelleront le communisme des sons. Avec ses élèves Alban Berg et Anton Webern, ils vont inventer un autre système, beaucoup plus égalitaire, le système sériel et dodécaphonique. Plutôt que de privilégier un degré plutôt qu'un autre, ils vont déterminer une série de notes qui doivent apparaître toujours dans le même ordre, chaque note ne pouvant apparaître qu'une seule fois avant que la série ne soit épuisée. Si cette série utilise l'intégralité des 12 demi-tons, elle est alors appelée dodécaphonique. La série peut être jouée en sens inverse, les intervalles peuvent être inversés, et les notes jouées simultanément, c'est-à-dire en accord ou successivement. Enfin, les notes peuvent être jouées dans des registres différents, c'est-à-dire du grave à l'aigu. Nous avons donc là un nouveau système d'écriture dont les conséquences esthétiques sont spectaculaires. les notions de thème, de cadence, de résolution qui ont structuré tout le discours musical depuis plusieurs siècles ne peuvent plus opérer. Il va donc falloir travailler sur de nouveaux principes et de nouveaux paramètres pour rendre une œuvre cohérente et donner la sensation d'unité propre à une forme. Un son, dans une œuvre musicale, propose plusieurs caractéristiques. Il est situé à une certaine hauteur, il possède une durée, c'est-à-dire un rythme plus ou moins long, et aussi une qualité, c'est-à-dire un timbre. La voix qui chante, par exemple, est grave ou aiguë, ou un hautbois peut jouer simultanément à une clarinette, ce qui donne un timbre particulier. Bref, cette abolition de la hiérarchie des hauteurs de son va permettre au compositeur de se concentrer encore plus sur les autres paramètres de rythme et de timbre. Arnold Schoenberg, 1874-1951. Schoenberg va être le grand initiateur de cette révolution. Celle-ci va s'opérer en deux temps. Il y a d'abord une période dite de l'atonalisme libre à partir de 1908, puis celle du dodécaphonisme sériel à partir de 1923. Avant 1908, les œuvres de Schoenberg s'inscrivent encore dans l'ère post-romantique. Elles sont encore tonales, bien que saturées de chromatisme. Dans sa jeunesse, Schoenberg voue une passion contradictoire pour Wagner et Brahms, deux compositeurs que l'histoire a souvent opposés. De Wagner, Schoenberg conserve l'hyperchromatisme. De Brahms, il garde le sens de la forme et le goût de la musique pure. L'œuvre représentative de cette première phase est sans conteste Verklärte Nacht, la nuit transfigurée. Sextuor à cordes, véritable musique à programme basée sur un texte de Richard Demel. Cette œuvre peut encore être qualifiée de tonale. La magie et le grand lyrisme qui la caractérisent permettent de la situer encore dans la tradition romantique. Son chromatisme, ses enchaînements d'accords de plus en plus émancipés permettent aussi de déceler la révolution à venir. Nous sommes à un tournant. De cette période post-romantique, nous pouvons aussi retenir le poème symphonique Péléas et Mélisande ou encore les Gourlieder. Schoenberg cultive à cette époque les grands effectifs et les grandes proportions. Les limites du monde tonal sont atteintes avec le premier quatuor opus 7 et la symphonie de chambre opus 9, des œuvres cette fois pour de petits effectifs. La symphonie de chambre est composée pour 15 instruments solistes. Sa structure est en un seul mouvement, la forme sonate y est largement retravaée. Thank you. C'est avec le deuxième quatuor opus 10 qui date de 1908 que la voie de la musique atonale est définitivement ouverte. Ce que l'on remarque, notamment dans cette œuvre, c'est que les enchaînements d'accords ne correspondent désormais plus aux lois du discours tonal. C'en est fini d'une tonique, d'une fondamentale, d'un centre tonal qui permettrait d'apaiser la tension ou de stabiliser le discours. Cet abandon va permettre de se concentrer sur un autre paramètre, le timbre. C'est ce que Schoenberg appellera la Klangfarbenmelodie, la mélodie de timbre. Autre transformation décisive, l'absence de répétition d'une même idée musicale, ce qui va conduire à l'athématisme, c'est-à-dire l'absence de thème mélodique. Nous le voyons très bien. Tout ce qui a fait jusqu'alors le moteur de l'écriture musicale, à savoir la définition d'une tonalité, les cadences qui ponctuent et organisent le discours, les thèmes, conséquences aussi des fonctions tonales, la forme, tout s'effondre. C'est donc un tournant majeur. L'une des œuvres caractéristiques de cette période dite de l'atonalisme libre, c'est-à-dire de l'émancipation de la dissonance qui n'est pas encore arrivée à la série de 12 sons, autrement appelée dodécaphonisme, c'est le Pierrot lunaire qui date de 1912. Ce qu'il faut noter dans cette œuvre composée de 3 séries de 7 courts poèmes, c'est le traitement particulier de la voix, dès lors que celle-ci n'est plus immédiatement le support d'un thème mélodique. Ce que l'on va appeler le Sprechgesang, cette manière de parler et de chanter, la voix se positionnant sur une hauteur avant de glisser librement sur une autre hauteur. L'univers atonal de cette période a pour effet de mettre en scène à la fois une dimension macabre et expressionniste. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel, die Dürrdirne mit langem Hals, so schlank wie die Klinge am Hals, ein Zöpfchen, wollte sich durch den Scheib halten, die Dürrdirne. C'est dans les années 20 que Schoenberg va fixer les règles du dodécaphonisme qui, comme nous l'avons vu, va recourir aux 12 demi-tons de la gamme chromatique ainsi mis en série. Ce renouvellement radical de la manière de composer va être suivi et amplifié par ses élèves Alban Berg et Anton Webern. Vous venez d'entendre Der Wunsch des Liebhabers d'Arnold Schönberg par le chœur de chambre des Pays-Bas et l'ensemble Schönberg sous la direction de Reinbert de Leuve. Juste avant, et en ouverture à cette émission, vous avez pu entendre un extrait de l'un des 5 mouvements pour quatuor à cordes d'Anton Webern par le quatuor Juilliard. Ensuite, un extrait de la Nuit transfigurée de Schönberg par le quatuor Arditi avec Thomas Kakuska à l'alto et Valentin Herbert au violoncelle, sexture à cordes, un extrait des Gouroliders, toujours de Schönberg, par le Wiener Philharmoniker sous la direction de Claudio Abbado, un autre extrait de la Symphonie de Chambre opus 9 de Schönberg par le Schönberg Ensemble, toujours sous la direction de Reinbert de Leuve, et enfin 2 extraits du Pierrot Lunaire de Schönberg, toujours par ce même ensemble, Schönberg du même nom. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez comme chaque semaine le jeudi à 19h Harmonie du soir et que nous évoquons aujourd'hui la révolution de la musique atonale, celle qui a été portée par ce que l'on appelle la seconde école de Vienne. Alban Berg, 1885-1935. Il y a évidemment beaucoup à dire de l'esthétique développée par Alban Berg, mais nous n'avons pas le temps en une heure d'émission d'aborder l'étendue et la richesse de l'ensemble de son œuvre. Nous vous proposons de nous concentrer sur son apport dans le monde de l'opéra, puisque c'est aussi dans ce domaine que son intervention est décisive. Il est l'un des acteurs majeurs de la modernité lyrique. Berg va composer 2 opéras, Wojciech, largement atonal, et Loulou, premier opéra dodécaphonique de l'histoire de la musique. Wojciech est créé au Staatsoper de Berlin en 1925. Le livret de Wojciech est tiré de la pièce éponyme de Georg Büchner, pièce inachevée, fragmentaire, commencée en 1836, Büchner mourant en 37 à l'âge de 24 ans. Berg va réagencer les fragments pour constituer 3 actes de 5 scènes chacun. Le drame est construit en 3 étapes correspondant chacune à un acte, exposition, péripétie et catastrophe. Le déroulement de l'action est relativement simple. Un soldat, Wojciech, tue sa maîtresse, Marie, la mère de son enfant, qui le trompe avec le tambour-major. Wojciech, qui se noiera dans un lac, est humilié par son capitaine, manipulé par son médecin et bascule progressivement dans la folie. Tiré d'un fait divers qui, en son temps, posait à toute une société la question de la responsabilité d'un homme en proie à l'aliénation mentale, cette pièce traite avant l'heure aussi de la question de l'inconscient, aspect qui dans la Vienne de Berg prend toute son ampleur. Le drame de Wojciech est aussi un drame social, il dépeint une société oppressive et réactionnaire qui crée les conditions du crime et aliène les plus démunis. L'une des caractéristiques notables de Wojciech consiste en un recours à des formes héritées de la tradition de la musique pure. Ainsi, le premier acte est structuré autour de pièces de caractère qui déploient des formes clairement identifiées, suite, rhapsodie, marche et berceuse, quasi-rondo. Le second est conçu comme une symphonie en 5 mouvements, et le troisième est une suite d'inventions, forme la plus novatrice au sein du dispositif. Pour Berg, il ne s'agit pas nécessairement de repérer cette construction à l'écoute simple de l'œuvre. C'est un processus générateur qui agit presque inconsciemment sur l'auditeur, comme en sourdine. Opéra de Berg. Laissé inachevé par le compositeur, l'orchestration de la fin de l'œuvre n'ayant pu être menée à son terme, Berg mourant en 1935. Il rassemble, pour le livret, deux pièces de Frank Weindekin, L'Esprit de la Terre, qui date de 1893, et La Boîte de Pandore de 1901, que Berg fusionne dans une forme en arche qui dépeint l'ascension sociale de Loulou, puis son déclin. Loulou raconte la destinée du personnage éponyme, femme fatale qui entraîne les hommes qui la désirent dans leur propre perte. Elle mourra égorgée par Jack l'Éventreur. Critique des travers d'une société viennoise 1900, prise dans des mœurs hypocrites, cet opéra est aussi la mise en scène d'Eros lui-même, à travers la revendication féministe avant la lettre de la pleine liberté érotique des femmes. Le livret est achevé en 1929 par Berg, qui entame alors la composition. En 1934, la partition non orchestrée est terminée. Berg meurt en 1935 alors qu'il poursuit l'orchestration d'une œuvre dont le troisième acte ne peut être bouclé. Elle est créée à Zurich en 1937 dans une forme intermédiaire dotée d'un troisième acte fragmentaire. Ce n'est qu'en 1979 que le compositeur Friedrich Serra achèvera l'orchestration du troisième acte sur les bases des éléments, nombreux, laissés par Berg.
Schlagen Sie mich!
Loulou est le premier opéra de décaphonique de l'histoire de la musique. C'est-à-dire qu'il est construit sur cette série qui rassemble les 12 degrés du total chromatique. Wozzeck, opéra atonal, était une étape vers cette radicalisation du procédé. Le principe de la série permet de construire des motifs issus d'un motif premier générateur, sorte de motif mère, celui de Loulou. Ce qui crée la tension d'unité musicale de l'œuvre. Sur le même principe, il est à noter la présence de ce que l'on pourrait appeler des light timbres, c'est-à-dire des instruments qui caractérisent des personnages ou des objets, tels le piano pour le personnage de l'athlète, le saxophone pour celui d'Alois, ou encore le vibraphone pour figurer le téléphone. Comme dans Wozzeck, des formes issues de la tradition structurent le discours en sous-main, telles la gavotte, la valse, la forme sonate, pour citer quelques exemples. Autre frais marquant, la présence d'instruments de jazz tels le saxophone ou même le piano logé dans l'orchestre qui colore certains passages. Le piano agit d'ailleurs dans cet opéra comme une sorte de continuo. Subsistent aussi des îlots tonaux qui, dans un tel contexte, sont perçus justement comme dissonants. Véritable inversion des valeurs et des hiérarchies, mais aussi lien évident avec la tradition. Ce qui frappe l'auditeur, c'est qu'une ligne mélodique se dégage en permanence de l'ensemble, malgré une telle complexité. Il faut noter aussi la grande clarté de l'orchestration, qui dans un langage aussi savant, vient jouer un rôle déterminant dans la perception sonore. Enfin, une sorte de lyrisme que l'on pourrait qualifier de malérien, celui du dernier malheur, se dégage d'une partition pourtant construite sur des principes fermement abstraits. C'est là toute la force de Berg, et c'est sans doute dans le lien renouvelé et resserré entre musique et drame que se loge une telle force expressive.
Hier geht es auch bald zu Ende.
Vous venez d'entendre à l'instant la scène finale de Loulou d'Alban Berg. C'était Terasa Stratas qui interprétait le personnage de Loulou dans cette version dirigée par Pierre Boulez à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Version quelque peu mythique qui avait aussi fait l'objet d'une mise en scène de Patrice Chéreau. Juste avant, vous pouviez entendre également quelques extraits toujours de cette Loulou d'Alban Berg dans cette même version, et encore avant, des extraits du Wojciech de Berg dans une version de l'orchestre symphonique de la radio de Leipzig dirigé par Herbert Kegel. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez Harmonie du soir comme chaque semaine, que nous évoquons aujourd'hui la révolution que fut celle de la musique atonale, sérielle et dodécaphonique par la seconde école de Vienne. Troisième héros de cette révolution, Anton Webern. Anton Webern, 1883-1945. Webern va suivre l'enseignement de Schoenberg jusqu'en 1908. Sa première phase créatrice est encore marquée par l'esthétique de Gustav Mahler. Il s'attache à explorer le contrepoint, attitude logique dans un contexte qui abandonne les fonctions de l'harmonie. Son opus 1, la Passacaille, témoigne de cette posture également redevable à l'histoire, la Passacaille étant une forme héritée de la tradition. Les silences jouent un rôle prépondérant, et ce, dès ses premières œuvres. La rupture avec la tonalité intervient très rapidement, notamment dans les 5 mouvements pour quatuor opus 5. L'esthétique de Webern va être marquée par la concision, l'aphorisme, la variation d'éclairage, la concentration sur l'essentiel, l'épure, la petite forme, comme l'équivalent musical d'un haïku en poésie. L'œuvre de Webern est peut-être la plus radicale des trois viennois. La concision génère une très grande concentration du matériau musical. Le rôle du silence permet aux éléments d'émerger d'une façon discontinue, de sorte à brouiller la forme. Aucun motif ne peut prendre le pas sur un autre. Toutes les hiérarchies et les fonctions sont remises à plat. Les notions de consonance ou de dissonance se brouillent dans un tel contexte, tout comme les notions de voix principale ou voix secondaire. C'est une sorte d'effondrement qui permet de repenser le temps musical. Il n'est plus l'expression d'une durée, il est une sorte de présent, d'instant. La Klagenfarben Melodie de Schönberg, c'est-à-dire cette mélodie de timbre, est largement explorée par Webern. Le timbre a une véritable identité et occupe une véritable fonction dans l'œuvre, comme pouvait l'être peut-être l'accord de la musique tonale. Dans les 5 pièces pour orchestre opus 10, c'est bien sur le son en lui-même que Webern nous propose de nous concentrer. La musique tonale organisait une hiérarchie entre les sons, ce qui faisait qu'un son avait une importance plus ou moins grande en fonction de ce qui précède ou de ce qui suit. Cette hiérarchie est désormais abolie, et le son vaut pour lui-même. Schönberg dira de Webern qu'il exprime, je cite, « un roman entier dans un simple soupir ». L'œuvre de Webern ne contient qu'une 30aine d'opus, mais il aura une influence décisive sur la musique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Thank you. Cette révolution de la musique sérielle et dodécaphonique est essentielle pour comprendre la modernité esthétique et la musique composée encore aujourd'hui. Ce retrait progressif puis radical des fonctions tonales va permettre une concentration sur le son en tant que tel et non plus sur le son relativement à un contexte. De nombreux courants de la musique contemporaine sont redevables de ce renversement des valeurs courageusement opéré par ces trois pionniers. Vous venez d'entendre à l'instant l'un des trois leaders opus 25 d'Anton Webern par la chanteuse Alina Lukowska et Charles Rosen au piano. Juste avant, quelques extraits, un extrait de la Passacaille opus 1 par le London Symphony Orchestra dirigé par Pierre Boulez, un extrait des 5 mouvements de quatuor à cordes par le quatuor Juilliard, un autre extrait des 5 pièces pour orchestre et du concerto pour 9 instruments, toujours sous la direction de Pierre Boulez à la tête du London Philharmonic Orchestra. Nous arrivons donc au terme de cette émission consacrée à la seconde école de Vienne. Je rappelle que vous pouvez la retrouver en podcast sur le site internet d'Aligre FM, comme l'ensemble des émissions d'Harmonie du Soir de ces dernières semaines. Je vous souhaite donc une très belle soirée à l'écoute du 93.1 et vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.